Nous allons lire un passage biblique qui se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 11, et ce sont les versets 29 à 36. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire « Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, ici il y a plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé, mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Si donc ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. C'est un drame que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est arrivé sur cette terre, n'a pas été reconnu par les gens religieux du peuple. Le peuple en lui-même a acclamé le Seigneur Jésus et a regardé sa présence comme une bénédiction. Et il y avait des foules qui suivaient le Seigneur Jésus. Mais le peuple n'était pas au courant de tout ce que disaient toutes les prophéties et de toute la loi. Ils avaient bien entendu certaines choses, mais ils n'avaient pas sondé complètement. Si bien que ce qu'ils pensaient, c'était au travers de l'enseignement des scribes, des pharisiens, des sadducéens et des autres personnes. Et ils jugeaient d'après le jugement de ces hommes-là, qui pour eux étaient les érudits, ceux qui avaient la connaissance, ceux qui avaient le fin mot de toute la question. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé à la fin, eh bien, il a été crucifié et il a été rejeté par tous. Parce que le peuple a regardé vers ses dirigeants et n'a pas regardé vers Dieu. C'est un drame. C'est un drame parce que le peuple s'est tourné vers le Seigneur Jésus et l'a suivi spontanément. Quand vous lisez les évangiles les uns après les autres, vous voyez au début la prédication de Jean-Baptiste et les foules qui vont vers Jean-Baptiste. C'est des multitudes qui se font baptiser, des gens qui sont prêts à entendre le Messie. Mais quand le Messie est arrivé, les foules l'ont suivi. Mais ils étaient toujours suspendus à ce qu'allaient dire les dirigeants spirituel. Et ils se sont dit, si le Messie vient, eux vont le reconnaître, c'est sûr. Et ils vont dire, c'est le Messie. Ils ont cru à la droiture de ceux qui les dirigeaient. Ils ont mis leur confiance dans des gens qui n'étaient pas dignes de confiance. C'est le peuple a acclamé le Seigneur Jésus, a mis ses vêtements sur le chemin pour l'accueillir à Jérusalem, quelques jours avant la crucifixion. C'est quelque chose d'étonnant. Vous dites, mais comment le Seigneur Jésus a été crucifié et il y a des gens, quelques jours avant, qui l'ont acclamé comme le roi qui rentre dans Jérusalem. Tout Jérusalem a été bouleversé par cet acte. Ils ont dit, mais qui est celui-ci? C'est vraiment quelque chose d'inimaginable. C'est acclamé. C'est l'entrée royale, Les rois d'Israël entraient montés sur un ânon dans Jérusalem. Ça, c'était le protocole même de l'intronisation d'un roi en Israël. C'est comme cela que les choses se faisaient. Alors, quand le Seigneur Jésus est entré dans Jérusalem, il est entré comme un roi d'Israël rentre dans Jérusalem, dans sa capitale. C'est le roi d'Israël qui est rentré dans la capitale. Et quelques jours après, il était crucifié. C'est parce que le peuple a écouté des gens qui étaient jaloux, qui n'ont pas voulu le reconnaître, parce que le Messie qui arrivait n'était pas le Messie qu'ils attendaient. Ils étaient bien convaincus que c'était le Messie, mais pas celui qu'ils voulaient. C'est le Messie qu'ils voulaient devait libérer Israël, devait chasser les Romains, devait établir Israël sur tout son territoire et Israël retrouver sa souveraineté et son indépendance vis-à-vis des autres nations. Et le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas dans ses discours, n'avait pas ce programme-là. Alors ils n'ont pas élu. C'est comme ça. Mais le peuple, lui, était attaché au Seigneur Jésus. C'est quelque chose, vous savez. Quand on suit la direction d'une personne, on marche avec Dieu en écoutant une personne plutôt que ce que Dieu dit. Je ne sais pas si je l'ai bien exprimé. Mais on a besoin des lunettes, de certaines lunettes pour voir la vie d'une certaine manière. C'est un drame. Bon, évidemment, le Seigneur Jésus-Christ était venu pour donner sa vie. Et il l'a dit. Le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie. C'était clair, dès le départ. Il y a eu tout un concours de circonstances, et comme je vous ai dit, il a été crucifié et mis à mort par des gens qui étaient jaloux. Même Pilate a compris que c'était par jalousie qu'il était livré. Ce n'était pas par ce qu'il était coupable de quoi que ce soit, c'était la jalousie qui avait motivé la mise au tribunal et devant le tribunal de Rome. Mais c'était donc les dirigeants qui avaient choisi de rejeter le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes dans la même situation quand nous regardons au travers du regard de nos dirigeants, des personnes qui parlent d'une certaine manière, qui ont une certaine autorité. Je suis toujours comment dire, méfiant. Quand certains chrétiens me parlent d'un dernier livre qui est sorti et comment ils l'ont trouvé passionnant, livre chrétien. Mais le meilleur livre chrétien que vous pouvez lire, mes frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. C'est le meilleur commentaire de la Bible, c'est la Bible elle-même. Quand vous entendez des paroles qui sont dites par certaines personnes, c'est à la lumière de la Bible que vous les analysez et que vous dites, est-ce que j'ai bien compris ce que cette personne m'a dit? La parole de Dieu parle d'elle-même. On vérifie, on constate ce que dit la parole de Dieu. Nous avons des maîtres à penser dans notre monde. Il y a des personnes qui organisent la pensée commune. C'est déjà, on a prévu ce que nous allons penser, notre comportement, notre manière d'agir. Tout ça, c'est étudié et compulsé. Il y a des colloques, il y a des personnes qui se réunissent. Voilà, il est bon que les gens pensent de cette manière-là, parce que c'est comme cela que l'on veut que les choses soient faites. Donc il y a une manipulation. L'humain a toujours essayé de manipuler son contemporain. Et plus il est élevé en puissance, et plus il cherche à manipuler les autres. Bon, je ne dis pas cela, je n'en fais pas une généralité, mais je vous dis faites attention, parce qu'il y a toujours une puissance de manipulation. On essaye toujours de vous faire comprendre et croire certaines choses. À une certaine époque, les vestes étaient d'une certaine manière. Aujourd'hui, elles sont d'une autre. Les pantalons, etc., et les cravates, et les machins, et les trucs, et les accessoires, tout ça était d'une autre manière dans le passé, et tout le monde croyait que c'était la vérité absolue. Et aujourd'hui, c'est différent. Je me rappelle une époque où, quand un simple plombier allait réparer un lavabo, il fallait qu'il ait sa cravate. Ah oui! J'ai un ami qui était électricien. Son entreprise l'a envoyé pour faire une réparation. Et la dame a refusé qu'il rentre chez elle et a téléphoné à l'entreprise parce qu'il était venu avec un blouson. Eh oui! Mais à cette époque, il fallait la cravate et le costume même pour faire une réparation électrique sur un téléviseur. Il était réparateur en téléviseur et autres appareils électroménagers. Et il était scandalisé. Je me rappelle d'un gars qui est... Bon, il était provocateur, lui. Ce matin, j'ai cru le rencontrer dans le métro. Mais il voulait jouer au golf. Alors, il est allé avec un ami, s'est présenté. Et il était en jean. Ah, on lui a dit non. Vous ne pouvez pas rentrer en jean. Ah bon, mais comment? Il le savait. Il a fait ça simplement comme provocateur. Mais il a dit qu'il faut avoir un costume de golf. C'est seulement ceux qui ont un costume de golf, c'est le costume adéquat pour jouer au golf. Mais maintenant, vous allez jouer au golf, vous allez en jean, aucun problème. Hein. Personne ne vous fera quoi que ce soit. La vérité de ce monde change. Ce qui était vrai il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, ou il y a 40 ans, n'est pas vrai aujourd'hui. Les choses ont changé. Et on vous regarde de travers si vous ne faites pas les choses d'une certaine manière. C'est le propre de ce monde. C'est ce que Saint Jésus disait, la figure de ce monde passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu est immuable, elle ne change pas. Elle ne change pas, elle ne changera pas. C'est pour cela que nous devons la méditer, l'étudier, l'approfondir, la rechercher, parce que il y a des personnes qui ont un préjugé sur certaines choses. Par exemple, le Seigneur Jésus-Christ est arrivé à une certaine époque. Mais on l'attendait d'une certaine manière. Et il n'a pas convenu à la manière qui était préconisée. Donc, les chefs du peuple ont rejeté le Seigneur Jésus. Parce qu'il n'est pas venu selon les préjugés de cette époque, de ce monde. La figure de ce monde change. Il serait arrivé d'une autre manière, il aurait été accepté. Il est arrivé de cette manière-là, il n'a pas été accepté. Pourtant, il a fait des miracles, il a guéri des malades, il a ressuscité des morts, il a fait du bien, c'était un bienfaiteur de l'humanité, si je puis m'exprimer ainsi. Hein. Mais il n'était pas la personne convenable. Il n'est pas arrivé de la bonne manière, parce que les préjugés étaient très forts. Et nous sommes exactement les mêmes êtres humains. Ce n'est pas souvent, on pointe le doigt vers le peuple d'Israël et on dit « Oui, mais ils ont crucifié le Seigneur Jésus, ils n'ont pas reconnu leur Messie. » Et si nous avions été à leur place, est-ce que nous l'aurions reconnu? Eh bien, je vous dis certainement pas, parce que nous sommes des êtres humains comme les autres. Nous avons nos préjugés, c'est-à-dire un aveuglement. Et le Seigneur Jésus dit, il y a des choses qui ont été très claires à une certaine époque, par exemple pour Salomon. La sagesse de Salomon était réputée. Et alors la reine du Midi est venue de très loin, reine de Saba, c'est en Afrique. Et elle est arrivée et pour écouter la sagesse même de Salomon. C'était une femme cultivée, c'est une femme instruite, et elle voulait, elle en avait entendu parler, elle a voulu voir d'elle-même si ce qu'on lui avait dit était vrai. Et elle a constaté que c'était vrai. Mais le Seigneur Jésus est venu avec plus que de la sagesse. Il est venu avec la sagesse divine. Quand les gens, les huissiers sont allés pour saisir le Seigneur Jésus, envoyés par les chefs du peuple, ils sont revenus et ils ont dit « Mais vous ne l'avez pas amené ?» Alors ils ont été très très étonnés. Ils ont dit « Mais les chefs du peuple hein, ?» Et les huissiers ont dit « Mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Voilà la raison pour laquelle ils n'ont pas amené le Seigneur Jésus. Les huissiers, qui étaient de bons juifs, ont entendu le Messie parler, et ils ont dit, ça, ce sont des paroles divines. C'est la sagesse plus grande que la sagesse de Salomon. Et la génération n'a pas reçu le Seigneur Jésus. C'est cette génération. C'est la reine de Saba s'est déplacée pour écouter la sagesse de Salomon, et le peuple n'a pas reconnu son Messie. Il dit, les gens de Ninive se sont convertis à la prédication de Jonas. Et le peuple ne s'est pas converti à la prédication du Seigneur Jésus. Faites bien attention. Il y a des préjugés qui peuvent nous aveugler, ou des choses les plus évidentes, les plus lumineuses ne nous éclaireront pas, parce que nous avons reçu des préjugés, un enseignement faux. Faux. Et je vous dis, je vous le dis fraternellement, prenez garde à la littérature chrétienne. Elle n'est pas toujours chrétienne. Elle est souvent humaniste. Ce que l'on enseigne dans les livres chrétiens, c'est souvent une forme déguisée d'humanisme. C'est l'humanisme avec un habillage chrétien. Mais c'est en fait le vrai nom, c'est l'humanisme. On vous enseigne des fausses doctrines. Il y a des livres qui, pour changer votre vie, pour avoir une meilleure vie, pour avoir... Mais vous trouvez les mêmes livres, vous allez dans un supermarché, vous les retrouverez avec une couverture différente, avec un titre différent, avec des propositions différentes, mais le concept est le même. C'est en fait que vous épanouissez dans votre vie. Un épanouissement de votre vie humaine, de votre couple, de votre ceci et de votre cela. C'est la parole de Dieu nous donne un enseignement. Nous n'avons pas besoin de livres écrits sur les couples. La parole de Dieu nous dit ce qui se passe dans un couple. Comment nous devons nous comporter les uns les autres. C'est tout. C'est la compréhension de l'amour, de la douceur. Prendre en considération que l'autre a des besoins et que, etc., etc., etc. Il suffit simplement de lire et d'approfondir la parole de Dieu et de se conformer à sa parole. Vous faites l'économie d'un livre sur le couple. C'est très très simple. Hein. Et puis, vous avez des livres sur des doctrines. On retourne au calvinisme maintenant. Mais comment le calvinisme... C'est Dieu a choisi une partie de l'humanité pour être sauvée, ou a créé une partie de l'humanité pour être sauvée, et l'autre il a créé pour être perdu. Comment un Dieu d'amour, on peut le mettre cela sur son dos? Et je comprends que des inconvertis aient été outrés par de pareilles paroles et dit « mais ça je ne veux même pas en entendre parler ». Un Dieu qui fait une discrimination pareille, c'est « je n'en veux pas ». Et il y a des inconvertis qui ont écrit des livres, justement, parce que ce Dieu-là, il n'en voulait pas. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. Si vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que Dieu aime tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Prenez garde à ce que vous lisez et à ce que vous entendez. Il doit toujours, dans votre vie chrétienne, il doit toujours y avoir le contrepoids de la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a vraiment dit cela? Est-ce que c'est Dieu qui le dit? Ce n'est pas parce que c'est la couverture est chrétienne ou c'est parce que le nom est connu, parce que c'est dans une librairie évangélique que c'est quelque chose de bon. Les modes changent. Je me rappelle, il y a 30 ans, dans les librairies évangéliques, c'était le rayon psychologie qui était le plus alimenté. Vous aviez beaucoup de livres psychologie chrétienne. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais maintenant, c'est plutôt la doctrine calviniste. Ça revient. C'est des modes. Ça change. Parce que on ne va pas vous faire de la psychologie. Les bibliothèques sont remplies de livres maintenant. Ils ont vendu suffisamment. Donc, il y a une question de marketing. Et un jour, je me rappelle, j'avais discuté avec celui qui s'occupe des finances de la CLC, pour citer que ça. C'était donc c'est lui, toutes les finances de la CLC, c'est lui qui s'occupait de ça. Hein. Et il était très très fâché avec moi parce que je lui ai dit que c'était votre affaire, ça tient beaucoup avec l'argent. Mais il m'a dit, mais il faut bien qu'on vive, il faut bien que l'argent rentre, il faut bien que l'argent, qu'on fasse... Mais j'aurais parlé à un épicier, j'aurais parlé à n'importe quel... Ça aurait été la même chose. C'était une question d'argent. Les petits... les crayons avec un verset biblique. Mais vous ne le taillez pas, le crayon, hein, parce que vous effacez le verset biblique. Et oui, j'en ai acheté un. Hein. Je ne l'ai jamais taillé. Il y avait marqué Dieu est amour. Quand je le taille, j'enlève Dieu en premier. Alors je ne l'ai pas taillé parce que c'était presque un crime. J'efface la parole de Dieu. J'efface des mots de la parole de Dieu. Je ne peux pas. Alors je l'ai gardé. C'est comme ça. Et je ne l'ai pas utilisé. Mais tout ça, ce sont des affaires d'argent. Il y a dans un monde chrétien, il y a un côté argent. Et il faut faire très attention à cela. Nous avons la parole de Dieu. Et nous avons besoin de la lire, de la méditer, de la sonder. Sondez la parole de Dieu. Laissez-vous éclairer par la lumière de la parole de Dieu. Remettez en question, à la lumière de la parole de Dieu, ce que vous croyez, ce que vous pensez. Laissez toujours la lumière pénétrer en vous. Vous n'avez pas besoin de tous les livres et de tous les commentaires que vous trouvez dans les librairies. Vous avez besoin surtout de la parole de Dieu, d'être imprégné de la parole de Dieu. Vous savez, les chrétiens dans le temps passé n'avaient pas beaucoup de livres, hein, mais ils avaient la Bible. Alors, ils lisaient la Bible. Surtout la Bible, parce qu'ils n'avaient surtout que la Bible. Et je vous dis, leur vie était changée, et ils étaient de meilleurs chrétiens que nous. Ils étaient plus conséquents dans leur vie chrétienne que nous, parce qu'ils lisaient la parole de Dieu et ils l'approfondissaient. Nous nous sommes distraits par des multitudes de choses. Nous n'arrivons pas à captiver notre pensée dans la parole de Dieu. Nous pensons à une chose, une autre. Je ne veux pas vous citer tout ce que nous pouvons penser. Mais nous sommes dispersés. Alors que nous avons plus de temps, nous avons beaucoup plus de loisirs, nous avons moins de temps pour lire la parole de Dieu et pour la sonder, pour la méditer. Les chrétiens, quand ils se retrouvaient, ouvraient la parole de Dieu. Je me rappelle d'avoir lu des histoires de pasteurs qui allaient voir des personnes et ils ouvraient la parole de Dieu. Ils faisaient un petit commentaire et ils priaient. Mais c'était la lumière de la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Quand les chrétiens se réunissaient, qu'ils avaient un différent, ils s'interrogeaient, ils disaient, mais d'accord, on est en train de discuter de cette affaire, c'est vraiment épineux, mais que dit la parole de Dieu? Quel conseil on peut tirer de la parole de Dieu? Quelle lumière la parole de Dieu peut jeter sur le problème que nous avons là? Et ils utilisaient la parole de Dieu. J'ai rencontré, j'étais dans des rencontres de pasteurs et de responsables où on a discuté de problèmes et on a discuté en tort et à travers et dans tous les sens. Et jamais on n'a fait une référence à la parole de Dieu. Et nous tombons exactement dans la même génération qui a rejeté le Seigneur Jésus parce qu'on est imprégné de l'enseignement des hommes et nous ne sommes pas imprégnés de l'enseignement de la parole de Dieu. C'est la lumière de la parole de Dieu qui doit nous éclairer. Nous sommes à la fin d'une année et nous allons commencer une autre. Quelle place nous allons mettre, va prendre la parole de Dieu dans notre vie chrétienne, dans la gestion de notre temps? Quelle place nous avons mis pour la parole de Dieu? Quel sera notre choix? Est-ce que nous allons faire comme dans le passé, et la parole de Dieu, eh bien, nous allons l'ouvrir de temps en temps, quand ça va mal, trouver un bon verset. C'est où nous la lisons parce que, par habitude. Parce que le matin, je lis un passage de la parole de Dieu. Voilà. Et le soir, avant de me coucher aussi. C'est l'habitude. Mais nous ne laissons pas la parole de Dieu nous sonder, nous éclairer. Nous ne nous dirigeons pas d'après sa parole. C'est vous lisez souvent et vous ne saisissez pas. C'est le problème de la plupart des chrétiens, c'est cela. C'est de lire la parole de Dieu et finalement d'en ressortir après la lecture aussi vide que s'il ne l'avait pas lu. Oh, bien sûr, on a rempli notre devoir chrétien d'avoir lu. On a passé un quart d'heure de lecture quand on a passé un quart d'heure. Mais on n'a pas sondé, on n'a pas médité la parole de Dieu. On n'a pas cherché, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui dans ta parole? C'est laissez-vous éclairer par la parole de Dieu. Et s'il y a quelque chose à changer, si la lumière vient dans un coin sombre de votre vie, n'hésitez pas. C'est pas votre vie qui a raison, c'est pas votre habitude, c'est pas votre préjugé, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu a parlé. Dieu dit les choses et nous devons faire très attention à ce que Dieu dit. C'est sonder la parole de Dieu. Personne n'allume une lumière pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. C'est-à-dire que quand la parole de Dieu habite en vous, quand elle transforme votre vie, quand elle change votre vie, alors il y a quelque chose qui se manifeste en vous. Le changement se voit. Les gens voient votre vie différente, votre vie changée, parce qu'elle est conforme à la parole de Dieu. Vous devenez quelqu'un de différent, vous devenez quelqu'un d'étrange pour ce monde, comme un extraterrestre. Et en fait, vous êtes un extraterrestre. Vous êtes né d'en haut, vous êtes votre cité est céleste. Mais c'est le changement que produit la parole de Dieu, cette lumière qui agit en nous, se manifeste, se voit. Il y a un comportement différent, il y a un changement d'attitude, un changement de vie, parce qu'il y a aussi un changement de pensée. Nous ne sommes plus perméables à la pensée de ce monde, qui essaye toujours de nous captiver, de nous amener en dehors du plan de Dieu. C'est insidieux, c'est pas méchant, c'est pas quelque chose qui nous brutalise, mais il y a une imprégnation et nous devons faire contrepoids avec la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Choisir l'enseignement de la parole de Dieu. La Bible dit, et je me conforme à ce que dit la parole de Dieu. Je m'appuie sur ce que Dieu dit. C'est quand Satan est venu au jardin d'Éden pour tenter Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a-t-il réellement dit? C'est-à-dire qu'il a laissé entendre que la parole de Dieu n'était pas aussi certaine que cela. Il voulait se renseigner, il le savait très bien ce que Dieu avait dit. Mais Dieu a-t-il réellement dit? Et il a mis en doute la parole de Dieu. Et c'est comme cela que l'homme et la femme sont tombés. Parce qu'ils ont mis en doute la parole de Dieu. Et ils ont écouté une autre voix que la parole de Dieu. Et au lieu d'être dans la lumière, ils sont entrés dans les ténèbres. Et c'est ce que nous sommes maintenant. Nous sommes dans les ténèbres. La lumière que nous recevons, c'est par Jésus-Christ. Et par le Saint-Esprit, nous avons un éclairage sur la parole de Dieu. Il nous éclaire, il nous conduit, et cette parole agit en nous. C'est les générations de chrétiens qui ont mis en évidence dans leur vie la parole de Dieu, eh bien, ont changé le monde. Tandis que les générations qui ont écouté ce que disait le monde et qui ont fait de l'humanisme chrétien, eh bien, on s'est identifié au monde. On est comme les caméléons, on a pris la couleur du monde. C'est un malheur pour l'Église. Il y a une nécessité de revenir entièrement à la parole de Dieu et de mettre de côté ces enseignements accessoires que nous tolérons et qui viennent brouiller les choses, qui nous empêchent de grandir dans notre vie chrétienne, la parole de Dieu. Le monde a peur des gens qui ne se fient qu'à la parole de Dieu. Là, nous devenons des gens dangereux quand nous nous basons que sur la parole de Dieu. Tandis que si nous sommes nourris des livres évangéliques et de toutes sortes, il n'y a aucun problème. Ils nous tolèrent. Mais si nous n'avons que la parole de Dieu, et nous uniquement la parole de Dieu, et que nous méditons et nous approfondissons, et que nous nous dirigeons d'après la lumière de la parole de Dieu, alors ils ne nous aiment pas. Ils ne nous tolèrent pas. C'est un choix, vous savez. On choisit d'entrer dans une pièce et de pousser le bouton pour être dans la lumière, ou de ne pas pousser le bouton et on reste dans les ténèbres. Je peux vous dire, on peut très bien vivre dans les ténèbres. Hein. On arrive à savoir où sont les objets. Mais si vous avez l'électricité chez vous, je vous donne un bon conseil. Appuyez le bouton. Et ça sera beaucoup mieux. Vous verserez votre jus d'orange dans votre verre, pas sur votre main. Parce que celui qui est dans les ténèbres, il verse à côté. Ah ben oui, si vous ne voyez pas clair. Et dans la vie chrétienne, c'est exactement la même chose. La lumière, c'est la parole de Dieu. C'est qu'elle éclaire votre chemin, qu'elle vous montre la bonne direction, qu'elle vous fortifie, qu'elle vous nourrisse, qu'elle soit votre préservation contre le péché, contre le mal, contre les dangers de ce monde. C'est la parole de Dieu.
Voilà. Je demandais à Astrid de venir.